Let me talk!
Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Me Talk, fin de trêve internationale, retour des championnats, on se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, bon, semaine de Pâques, comité restreint, on ne sera que trois, donc je vais accueillir les chroniqueurs du jour, donc on va commencer par Muse Amel. Comment ça va Muse?
Salut l'équipe, ça va super Patrick, et toi?
Ça va super, merci. Je vois que tu as appris de l'autre podcast qu'il faut dire « et toi ».
Ouais, mais justement, bien. Je pensais à ça et je me suis dit, il n'y a personne qui avait dit dans l'épisode 1 « et toi ». Donc du coup, là, cette fois-ci, je n'ai pas oublié.
Là, c'est bien, on évolue. Et le deuxième chroniqueur, ben, un chroniqueur que vous connaissez, qui était lui aussi présent pour le premier épisode, Carter, comment ça va?
Ben écoute, ça va super. Content de vous retrouver après deux semaines d'absence. C'est bien d'être de retour.
Ben, c'est la fin de la trêve internationale, les titulaires peuvent revenir, hein. sont de retour. Là, on a fait jouer un petit peu les remplaçants la semaine passée, maintenant c'est sérieux.
Les vrais hommes sont de retour.
Exactement. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'avais posé la question aux autres, et je vais vous poser la question inverse. Vous, est-ce que vous êtes heureux de retrouver enfin le football de club et qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end foot avec beaucoup de gros matchs, peut-être en tout cas sur le papier, toi par exemple Carter?
Honnêtement, ça fait du bien de retrouver le football de club. On aime bien les trêves internationales, mais le football de club, c'est beaucoup plus excitant, surtout que ce week-end on avait beaucoup à manger et donc content d'avoir retrouvé le football de club, même si en tant que supporter de Manu, j'ai pas bien mangé, mais voilà.
Et toi Muse, content?
Ouais, tout aussi content. On a beaucoup mangé dans tous les championnats, je dirais. Donc non, ça change un peu des trêves internationales et c'est un meilleur kiff, je dirais.
Ouais, on a beaucoup mangé. Moi, je trouve le menu, en tout cas, il donnait vraiment envie, mais le repas qu'on nous a servi, dont un match dont on va parler aujourd'hui, c'était pas si bon que ça, hein. Je trouve que là, la photo était plus belle que le repas. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, on va présenter les thèmes du jour. Et donc, il y aura, donc, on va dire, quatre grands thèmes pour aujourd'hui. On va commencer par le choc entre Manchester City et Arsenal. Ensuite, on va parler du classiqueur entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund avant de revenir en Belgique et d'évoquer le début des Champions Playoffs et de terminer avec, encore une fois, le question-réponse des auditeurs. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous poser sur quelques sujets, que ce soit tant que c'est lié au football, notre Twitter, Let Me Talk Off, vous venez, chaque semaine on poste un tweet pour demander vos questions. Avant de réellement commencer, un nouveau chapitre, donc on va aborder avant de rentrer dans les sujets, pour parler de sujets dont on ne va pas parler en profondeur, mais qu'on avait envie d'évoquer. Chaque chroniqueur donc, va parler de quelque chose, on n'en parlera pas, mais... donc, ce sera une news de la semaine par rapport à un match, par rapport à une actualité. Et donc, je vais laisser Muse Amel commencer et parler de son « on n'en parlera pas, mais ».
Donc moi, mon « on n'en parlera pas, mais » c'est l'Euro 26 et j'espère que ça va passer. L'UEFA va en décider le 8 avril et moi, je pense que si on passe à 26 joueurs, je pense que ça peut être un gros banger pour cet Euro.
Euro à 26 joueurs, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est surtout les joueurs qui aimeraient qu'on passe à 26 joueurs à partir du moment où... Ben, on garde les 5 changements du Covid, pourquoi ne pas garder les 26 joueurs? Et toi, Gédéon, c'est quoi l'actualité dont tu avais envie de parler?
Alors, on n'en parlera pas, mais Manchester United, 3 petits points. Avant la trêve, on a tous assisté au gros match qu'il y avait eu entre Manchester United et Liverpool. Et on a été un peu bluffés par la pression de Manchester United. Et ici, ben, je voulais juste souligner encore le manque d'efficacité, le manque que j'ai proposé par l'équipe ce week-end, et la déception. Donc, voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, pour ceux qui n'auraient pas suivi
Bon, en gros, match nul un partout entre Manchester United et Brentford. Manchester a concédé 31 tirs au but. Premier but marqué par Mason Mount à la 96e minute, avant d'encaisser l'égalisation à la 99e minute. Donc, voilà, la tristesse.
C'est vraiment une saison compliquée, on dirait que Manchester, c'est un an sur deux, un an on joue la deuxième, troisième place, et puis l'autre année on joue la septième place, et ça commence à être une habitude. Et moi, le « on n'en parlera pas », mais que j'avais envie d'évoquer, c'est évidemment la prolongation de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Enfin, la prolongation, en tout cas, il a annoncé qu'il serait encore là la saison prochaine, alors qu'on parlait de lui à Liverpool, au Bayern, un petit peu au Real Madrid, mais bon, avec la prolongation de Carlo Ancelotti, c'était, voilà, c'était mort. Je trouve ça chouette de voir un coach qui part pas directement, qui reste. J'ai vraiment envie de voir ce que le Bayer Leverkusen, ça peut donner en Ligue des Champions s'ils gardent leur effectif. Je pense qu'avec ça, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui vont partir. Peut-être un Frimpong, je ne serais pas étonné, mais s'ils arrivent à garder un Grimaldo, un Florian Wirtz, un Palacios, moi, j'ai envie de voir en Ligue des Champions parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être embêtées. Donc maintenant, on va rentrer dans nos thématiques, qui est la première thématique, donc Manchester City, Arsenal. Donc pour commencer, on va parler des compositions d'équipe avec pas moins de 8 défenseurs centraux sur les 22 joueurs. Donc Arsenal, donc qui était dans un 4-3-3 avec Raya au goal, White, Saliba, Gabriel, Kivior en défense, un milieu à 3, donc Odegaard, Jorginho, Declan Rice, et en attaque Bukayo Saka, Kai Havertz, et la surprise à gauche, Gabriel Jesus, qui était de retour dans le 11. Du côté de City, j'ai envie de dire le dispositif qui était mis, on va dire, sur le papier, mais qui n'était pas vraiment comme ça dans la réalité. Sur le papier, c'était un 4-1-4-1 avec Ortega au goal, Akanji, Diaz, Ake, Gvardiol en défense, au milieu de terrain, donc Rodri, puis une ligne de 4 devant lui, composée de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kovacic et Foden, et en attaque Haaland. Mais bon, on a vu beaucoup de permutations du côté de City, hein, avec un Kovacic qui est quasi descendu, voilà, comme défenseur central gauche. De Bruyne qui, en fait, était presque plus au qu'Erling Haaland. Donc, ça s'est fini sur un match nul. 0-0 et pas un beau 0-0. Pas beaucoup d'occasions, très fermé. Et voilà, les stats le disent, 3 tirs cadrés sur le match. Des offensifs à City, pas bons du tout, que ce soit Foden, Haaland, Kevin De Bruyne, qui n'étaient pas... dans leur match, on a eu Bernardo qui a embêté lui Kivior. Du côté d'Arsenal, une grosse défense centrale, voilà, avec un grand Saliba et un grand Gabriel qui ont vraiment mangé à l'ombre. Donc Arsenal plus mature que la saison dernière quand on repense au match qu'ils avaient fait. Et à City qui donc est à 0 victoire face au top 5 cette saison. J'ai envie de dire, toi Mus, est-ce que tu penses qu'il y a une de ces deux équipes qui est heureuse de ce match nul?
Je dirais pas heureux, mais je dirais plutôt que Arsenal est beaucoup plus content que City de prendre moins un point ici à l'extérieur au vu du match, parce que c'est un match très tactique, très fermé. Et ce qui est encore plus inquiétant ici, c'est que Manchester City a 0 victoire face au top 5 de première ligue ici. Donc je dirais pas qu'il y a un grand gagnant pour ce match nul là, mais s'il y a une équipe qui devrait l'être un peu plus, donc un peu plus content, je dirais que c'est quand même Arsenal.
Et toi, Carter, pour toi, est-ce qu'il y a une équipe avec ce match nul qui est ressortie contente, ou les deux équipes doivent être frustrées par ce match nul?
Moi, je pense honnêtement que le résultat n'arrange aucune des deux équipes. L'idée, je pense, de base, c'était qu'une des deux équipes arrive pour prendre les 3 points et rester en tête dans le championnat anglais. Et ça, c'est l'idée de base. Sur le terrain, ça s'est montré tout le contraire, parce que les deux équipes sont venues avec des idées plus ou moins similaires et sont neutralisées. Donc, je pense que ça arrange aucune des deux équipes. Ça fait vraiment juste l'affaire de Liverpool, parce que du coup, les deux se retrouvent distancés à 2 et 3 points, si je dis pas de bêtises. Donc, non, ça arrange personne, à mon sens.
Mais quand tu vois, moi, je me dis, quand je vois comment Arsenal est venu avec un bloc assez bas, sachant que Arsenal est la seule équipe, donc parmi les trois, Arsenal a fait 4-6 face à Liverpool, 4-6 face à City. Moi, je me dis, quand tu penses à ce qui s'est passé la saison passée, où Arsenal a dominé le championnat pendant une grande partie, même une très grande partie, avant de totalement exploser, justement après une défaite face à Arsenal, moi, je me dis quand même, Arsenal, est-ce que eux, ça les rassure pas en se disant, nous, on peut aller à l'Etihad, il n'y a pas beaucoup de clubs qui en sont capables, venir arracher le nul. Et même, je trouve que City, en fait, en ayant certes le ballon, mais en se créant peu d'occasions, a montré qu'ils avaient, j'ai envie de dire, peur peur justement d'Arsenal. Tu penses pas, toi, Carter?
Peur, je pense pas. En fait, comme je l'ai dit juste précédemment, Nous, on entend beaucoup le terme fils spirituel en tant que, enfin, quand on parle de coach. Et on sait que Arteta, ben, c'est un des fils spirituels de Guardiola, avec des idées de jeu qui sont plus ou moins similaires, hein, si je peux le vulgariser comme ça, parce qu'il y a sûrement des points différents. Et je pense que ça s'est vraiment vu dans le jeu, en fait. Ça s'est vraiment vu dans le jeu. Je ne pense pas que Guardiola ou les City avaient peur d'Arsenal. Ils sont juste confrontés à une équipe qui joue plus ou moins comme eux, ils jouent, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a vraiment ressenti pendant le match.
Ouais, moi, je rejoins Carter là-dessus. En fait, le problème, c'est que c'est deux équipes qui se ressemblent sur le plan tactique. Et donc, quand deux équipes jouent de la même façon, on assiste à un match plus ou moins ennuyeux comme celui-là.
Mais est-ce que vous n'avez pas vu, justement, je trouve, une évolution? Parce que Arsenal, par rapport à la saison dernière, je trouve que c'est vraiment devenu une équipe différente. Et justement, City aussi a évolué, alors que c'est une équipe très offensive, enfin, elle est toujours très offensive, évidemment, mais à l'époque, on va dire, des Leroy Sané, des Sterling, c'est une équipe où, on va dire, elle allait au combat contre l'autre équipe en mode, ben, je vais te laisser de l'espace, tu auras des occasions, mais moi, j'en aurai plus que toi et je vais marquer plus de buts. Et ben, Guardiola a évolué parce que pour lui, en Ligue des Champions, il a compris que ce n'était pas possible et que l'année passée, il gagne la Ligue des Champions parce qu'il a une défense quasi imperméable. Est-ce qu'on ne voit pas ben, la même chose déjà du côté d'Arsenal, mais en Première Ligue? Toi, par exemple, Mus?
Bah, c'est le cas. Regarde la différence entre l'Arsenal de cette année et l'année passée. C'est juste ça. Cette équipe a appris en maturité, a appris à mieux jouer et a appris à contrôler ses temps forts et ses temps faibles. Et c'est ce qui donne aujourd'hui ce match nul. Parce que l'année passée, le même Arsenal-là, je ne les aurais pas vu gagner ce match-là.
Ouais, y a vraiment une évolution. Et moi, je ne m'y attendais pas. Et toi, Carter?
Ben, en fait, il m'a vraiment ôté les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'allais dire. La différence et l'évolution dont tu parles du côté d'Arsenal, c'est qu'ils encaissent moins de buts stupides et ils ont pris beaucoup de maturité dans le jeu, dans la manière de défendre. Ça arrange le fait que Saliba soit là, parce qu'en passé, il s'est blessé à cette période-ci, si je ne dis pas de bêtises. Et le fait que, ben, au moins, Arteta peut avoir son 11 titulaire et complet à cette période de l'année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière avec beaucoup de blessés, ben ça permet de voir une équipe beaucoup plus mature qui concède moins de buts et moins de défaites stupides. Bon, si on retire la période qui s'est passée, je pense que c'était vers le Boxing Day où ils perdent deux matchs ou un match une contre des équipes un peu plus faibles dans le bas de tableau. Ben depuis, c'est entre guillemets un rouleau compresseur, une équipe qui prend presque le maximum de points, qui n'était pas le cas l'année passée, qui perdent beaucoup de matchs dans le dernier tiers du championnat. Et ouais, voilà, comme Musil a dit, c'est une équipe qui a pris justement beaucoup en maturité et surtout qui peut compter sur ses titulaires, pardon. Donc, c'est peut-être ça l'évolution dont tu parles, Patrick.
Ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut dire que Mark Wilmot avait peut-être 10 ans d'avance avec une défense à 4, avec 4 défenseurs centraux, parce que là, on voit que ben, Arsenal avait 4 défenseurs centraux, que City, 4 défenseurs centraux, même l'équipe de France, championne du monde, c'était 4 défenseurs centraux. Ben, on voit que pourtant des équipes qui sont dites plutôt offensives, se permettent entre guillemets maintenant de ben, le poste de latéral. Je préfère avoir un joueur qui va sécuriser défensivement, même si ben, bizarrement le joueur qui était peut-être le plus offensif lors de ce match était Gvardiol. Est-ce que Mark Wilmots est un visionnaire, j'ai envie de vous demander?
Visionnaire, je dirais non, même si je l'aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème qu'on rencontre avec les latéraux, c'est qu'ils ne défendent plus aussi bien qu'avant. Et donc, les coachs préfèrent un central qui fait le taf, qui défend et qui joue plus bas.
Et toi, ouais, Carter, visionnaire?
Ouais, je pense que c'est exactement ça. Alors, comme mon compatriote Muse, Mark Wilmots n'est absolument pas un visionnaire. Mais ce que je dirais, c'est que je pense que la révolution du poste de latéraux qu'on a connu au début des années 2010 avec les Daniel Alves, les Marcelo, a un peu atteint sa limite. On est arrivé à un stade où ben, les latéraux formés, on les a vraiment formés à centrer, attaquer, percuter, mais par conséquent, ils étaient des moins bons défenseurs. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Je pense que les coachs se rendent compte et ce qui fait que maintenant, les grands clubs ou les grandes nations alignent des défenses avec 4 défenseurs centraux de formation.
Ouais, c'est vrai, il y a de moins en moins, enfin les latéraux, on va dire, qui sont encore là, offensifs, qui performent. On a peut-être Théo, qui est peut-être, ouais, j'ai envie de dire, le seul, j'essaie de réfléchir. Ouais, il y a Cancelo, mais encore Cancelo, il s'est, ben, voilà, justement, City à un moment l'a mis dehors, le Bayern n'a pas cru en lui. On voit qu'Alfonso Davies a un petit peu de mal, enfin, même beaucoup de mal, ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. Arnold, bah, il commence à jouer presque comme un milieu de terrain. C'est vrai que c'est un poste qui est vraiment en train de totalement se modifier. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans un débat qui a fait un peu, enfin, qui a fait rage sur les réseaux sociaux par rapport à ce match qui, pour le spectateur neutre ou même pas neutre, je pense même certains supporters des deux clubs, ils se sont fait chier, voilà, on va dire les termes devant le match. Est-ce que vous, ça vous dérange que le choc de première ligue entre deux des meilleures équipes au monde soit aussi ennuyeux? Et si oui, vous en voulez le plus à qui? À City qui est à la maison et qui, voilà, est censé être la meilleure équipe du monde. Et on se dit, ben, quand même, City doit proposer plus, parce qu'à un moment, ils ont proposé très peu, du moins offensivement. Ou à Arsenal qui est venu avec ce bloc bas. Toi, Carter, est-ce que ça t'a dérangé?
Alors, pour répondre à ta question, j'en veux ni à City ni Arsenal, j'en veux aux deux coachs. J'en veux à Guardiola et Arteta parce qu'ils savaient à quoi s'attendre venant l'un de l'autre. Et je pense que personne n'a été original. Je pense qu'ils ont joué un peu la sécurité. Et je pense que les deux sont venus pour ne pas perdre. Aucun des deux est venu dans l'option de se dire on veut gagner, certes, mais l'idée, c'est de ne pas perdre d'abord. Et ce n'est pas des coachs qui sont... comment dirais-je? C'est pas la philosophie de ces coachs généralement qu'ils abordent des matchs. City part pour gagner, Arsenal part pour gagner. Et ici, j'en voudrais vraiment aux deux coachs parce qu'ils sont vraiment venus pour pas perdre. Et ça a vraiment, ben, comme tu as dit, pas tué le match, mais en tout cas tué le match pour le spectateur neutre qui veut assister à un match avec du spectacle, avec des buts et des belles occasions, ce qui n'a pas été le cas. Et je pense que si la responsabilité incombe à quelqu'un, ben, elle incombe à Arteta et Guardiola.
Moi, je rejoins Carter là-dessus aussi. J'en veux au coach parce qu'aucun des deux coachs n'a osé prendre des risques. Moi, quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, oh, il y aura du but, ce sera sûrement tactique. Mais on va avoir du beau jeu. Au final, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tactique, pas assez de risques. Et je dirais à la limite que c'était un jeu robotisé. Je n'ai pas envie de m'éterniser sur la performance d'Haaland, mais c'était une catastrophe. Kevin De Bruyne ne devait pas commencer ce match-là. Il est venu beaucoup trop tôt. Et voilà, non, je suis très déçu de ce match-là et j'en veux aux deux équipes, moi.
Ouais, moi, je suis aussi dans ta lignée. J'en veux pas qu'au coach parce que, certes, ils ont fait des plans peut-être sans originalité par rapport à d'habitude, alors qu'ils pouvaient s'attendre à ce que l'autre allait proposer. Mais Guardiola, qu'est-ce qu'il peut y faire que Haaland, il a mis ses chaussons de sécurité, que De Bruyne, bon, certes, ils pouvaient ne pas le mettre parce que De Bruyne, on voyait que c'était un joueur qui manquait de rythme. Foden aussi, ça n'a pas été bon du tout. Il y a beaucoup trop de joueurs, je trouve, offensivement, qui ont été en deçà. Même, par exemple, du côté d'Arsenal, Gabi Jesus a aussi pas mal croqué. Donc, ouais, certes, les coachs ont leur part, mais moi, il y a certains joueurs, vous aussi. Donc, ben, de ce match, il y a un grand vainqueur. C'est évidemment Liverpool, voilà, qui lui a gagné face à Brighton et qui prend maintenant seul la tête du championnat avec 67 points, 2 points devant Arsenal, et c'est 65 points, et 3 devant City. Donc on a 3 clubs qui sont encore en lice en Coupe d'Europe, enfin en Ligue des Champions donc pour City et Arsenal, en plus dans le chemin le plus compliqué. Et on a City qui est même aussi en FA Cup. Et donc on a Liverpool, ils sont en Europa League, voilà, ils vont affronter l'Atalanta. Donc maintenant c'est un peu l'heure du prono, l'heure de se mouiller. Je vais commencer par Mus, qui sera champion entre les trois, à moins que peut-être pour toi ce sera Aston Villa, je sais pas, hein, ils sont pas si loin que ça. Hein.
Non, moi je la sens bien cette année pour Arsenal, même si j'aurais voulu que Doku et Kevin De Bruyne la prennent, mais je pense cette année c'est plutôt pour Arsenal. Ils ont retenu la leçon de l'année passée à mon avis.
Carter, et toi?
Avant la CAN, donc avant le Boxing Day, j'aurais dit Liverpool, mais au vu de la forme de Mohamed Salah, qui est leur arme offensive numéro 1 cette saison, j'ai du mal à les voir tenir sur la dizaine de matchs qui restent. Et donc, du coup, je vais rejoindre Muse. Hein. Je pense que Arsenal va le faire cette année. Je pense que ils sont passés l'année passée pas très loin, et il y a encore quelques saisons, ils étaient encore passés pas très loin. Ils vont la prendre cette année. Je pense que elle est pour eux. Au vu de la forme actuelle et des matchs qui leur restent, je pense que, si je dis pas de bêtises, ils ont le calendrier le plus simple des trois premiers. Donc, je pense qu'ils vont le faire.
Et est-ce que c'est pas un choix horrible en tant que supporter de United d'avoir choisi entre City, Arsenal et Liverpool?
C'est pour ça que j'ai pris Arsenal.
Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu vois?
Alors, moi, qu'est-ce que je vois? Moi, mon cœur me dit de dire Arsenal. Déjà, les maillots l'année passée, c'était un banger et c'est l'équipe qui, je sais pas, me fait le plus. J'avais vraiment de la peine pour eux. Et là, je suis en train de me dire l'histoire à Jürgen Klopp, quand je vois encore leur match face à Brighton, comment ils vont chercher la victoire alors qu'ils sont menés. Tu vois, en McAllister, le niveau. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, peut être menée, mais elle sera à revenir. En plus, elle a l'habitude de ses runs. Les joueurs, ils se disent tous, là, on doit aller chercher ça pour le coach. Et il y a plein de joueurs dans l'effectif qui n'ont pas encore gagné de première ligue aussi chez eux, comme Nunez, Szoboszlai ou McAllister. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est Liverpool. Et au niveau des calendriers, justement, je pense que je me demande si Arsenal n'a pas justement un calendrier un petit peu plus dur, parce que je pense qu'eux doivent encore rencontrer Chelsea, alors que les deux autres ont déjà joué deux fois Chelsea dans mon souvenir. Sinon, je pense que les trois doivent jouer Tottenham. Donc, je pense que c'est Tottenham qui va avoir ce rôle d'arbitre. Mais je pense qu'Arsenal a un calendrier légèrement, mais très légèrement plus compliqué.
Ouais, pendant que tu parlais, je suis parti vérifier. Effectivement, tu as raison. Ils ont un calendrier plus compliqué des trois équipes. Donc, autant pour moi.
Mais voilà, mais bon, on sait jamais avec la première ligue. Mais moi, je pense que la Ligue des Champions peut avoir en tout cas un réel impact. Donc, maintenant, il est temps de passer au deuxième sujet du jour, le classiqueur, un classiqueur surprenant, j'ai envie de dire, entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, avec une victoire 0-2 du Borussia, avec des buts donc de Adeyemi et Ryerson, et un très, 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 très grand Mats Hummels. Il faut savoir que Dortmund n'avait plus gagné depuis 10 ans à l'Allianz Arena en Bundesliga. Ils avaient gagné en 2017 en Coupe d'Allemagne, hein, moi je me souviens, avec un grand Dembélé, mais en Bundesliga, enfin la dernière fois, il faut dire que c'était Klopp le coach, et je pense c'était Guardiola, donc le coach du Bayern. Le Bayern donc a maintenant 13 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Première question, c'est quoi le problème au Bayern? Est-ce que c'est Tuchel? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est un tout, Musamel, dis-moi.
Moi, je dirais que d'abord, le premier problème, c'est le coach, c'est Tuchel. C'est pas la première fois qu'il choque ce genre de championnat. C'était le cas dans ses précédents clubs. Et donc, je dirais le premier problème, c'est Tuchel. Le deuxième, c'est les joueurs, c'est la mentalité. Les joueurs ne pensent plus à gagner. Je dirais même que la mentalité des joueurs a diminué. C'est plus le Bayern qu'on connaît depuis ces dernières années. Et la direction aussi avec, je dirais, des transferts qui ne sont pas forcément logiques.
Et pour toi, Carter, c'est la faute?
Ben moi, je suis moins dur avec Tuchel que vous deux. Je sais que Patrick, ce n'est pas ton grand ami, Tuchel. Mais encore une fois, je lui accorde le bénéfice du doute. Et l'arrivée dans un club qui était déjà en crise, ou du moins en crise pour le Bayern de Munich, je pense que la responsabilité, elle incombe aux joueurs et à la direction qui, je pense, a changé récemment. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, a changé récemment. Je pense que c'était Kahn et j'ai oublié le nom du président qui sont partis. Je pense qu'une nouvelle direction depuis la saison passée. Mais les joueurs, enfin l'équipe, elle est méconnaissable. En fait, depuis une dizaine d'années, le Bayern nous a habitué à être un rouleau compresseur, des machines. Et là, tu regardes le match de samedi soir, mais c'est pas du tout ce qu'il y a sur le terrain. Ils se sont fait dominer. Les attaquants se mangeaient par un Mats Hummels des grands soirs, une seconde jeunesse. Vraiment, l'équipe est méconnaissable. Je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais le match des latéraux du Bayern Munich, c'était catastrophique. Alphonso Davies, je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle ce jour-là. Il faut qu'on en parle. Donc, je pense que la responsabilité, elle incombe d'abord aux joueurs et à la direction. Et en troisième position, je dirais Tuchel.
Allez, là, c'est mon moment. Je vais parler de Thomas Tuchel, l'imposture Thomas Tuchel, comme Carter l'a dit. J'aime pas du tout ce coach. Non, pour être un peu plus sérieux, c'est un coach qui a fait des très bonnes choses. Hein. Pour moi, en tout cas, au Borussia Dortmund, ce qu'il avait fait, c'était très bien. Au PSG, il a fait des bonnes choses, même si pour moi, la finale qui est arrivée était un petit peu comme un trompe-l'œil. Voilà, avec le Covid, mais la saison, la gestion de certains joueurs, comme je me souviens d'Icardi, qu'il a géré n'importe comment, le match allait justement au Borussia Dortmund. Pour moi, c'est pas lui le principal fautif, pour moi, c'est la direction par rapport à ce qu'elle a fait la saison dernière. Ça a été du grand n'importe quoi. Je me souviens, je pense justement, on devait peut-être justement être dans l'ancien projet Letmittal qu'on a appris le licenciement de Nagelsmann pendant la trêve alors qu'il était au ski. De là, à partir de là, c'est devenu n'importe quoi. C'est un club qui est censé être un des plus gros clubs, très stable. On a l'impression que toutes les décisions qu'ils prennent sont bonnes, mais là, depuis quelques années, en fait, depuis que la direction a voulu, je trouve, prendre trop sa place dans le sportif, quand je parle de sportif, c'est ce qui se passe sur le terrain. Je me souviens d'avoir vu le documentaire quand il gagne avec des champions et la saison d'après avec Flick. On voyait que Sally, mais je ne sais pas dire son nom, mais ça se finit par Ick, qui était, on va dire, peut-être le directeur sportif, qui s'est assis sur le banc à côté du coach. Je trouve pas ça normal. Enfin, je vois ça dans aucun club, en tout cas hors Bundesliga. Mais Tuchel, pour moi, évidemment, ce qu'il fait là. Enfin, quand tu vois l'effectif qu'il a, les joueurs qu'il a, je trouve que c'est honteux. Ce serait vraiment honteux de proposer le football qu'il propose. Déjà, Chelsea gagne des champions, mais ce qu'il proposait en première ligue, pour moi, c'était, enfin, footballistiquement, je me souviens d'un match face à City où ils viennent peut-être en 3-5-2. Mais genre, il n'y a vraiment que deux attaquants sur le terrain. Le reste, c'est que des joueurs très défensifs. C'est un coach que j'affectionne pas du tout. Et je pense que c'était vraiment un très mauvais choix de le prendre. Et ben même maintenant, il pense à faire revenir Nagelsmann. Donc, on voit que c'était un mauvais choix. D'ailleurs, en parlant de Tuchel, il a annoncé que le championnat était fini. Donc, voilà, le Bayern Leverkusen est champion pour lui. 13 points de retard à, je ne sais plus, 7 journées de la fin. C'était trop. Donc, après avoir été éliminé de la Coupe, il ne reste plus que la Ligue des champions. Est-ce que vous pensez, avec l'effectif qu'il a, le fait que Tuchel reste quand même un très bon tacticien, en tout cas on l'a déjà vu en Ligue des Champions, est-ce qu'ils peuvent être compétitifs en Ligue des Champions en étant du côté des gros, c'est-à-dire Arsenal, City, Real Madrid? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, ou pour vous, ce qu'on a vu en championnat, on le verra aussi en Ligue des Champions? Par exemple, toi, Muse, t'en penses quoi?
Moi, je pense, au vu de la mentalité de Tuchel, comme tu as dit, et 13 points, c'est fini, bravo au Bayer Leverkusen pour le titre. Je pense qu'au vu de sa mentalité, je ne vois pas du tout le Bayern faire quoi que ce soit en Ligue des Champions. Et même, je dirais que Arsenal va passer assez facilement. Ouais.
Assez facilement, carrément. On note. De toute façon, c'est bientôt, on est le 2, je pense que c'est le 9
ou le 10. Je vois arriver la saison blanche gros comme une maison pour la bande de Tuchel.
Voilà, tu prends pas beaucoup de risques. Et toi, Carter, tu penses que le Bayern, c'est saison finie, ou Ligue des Champions, on sait jamais?
Bah, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec Musa. Comme Tuchel l'a dit, comme il est plutôt clair et évident que le championnat, c'est mort, je pense que l'effectif, en dépit de la qualité de sa mentalité, il y a quand même une qualité footballistique. Il y a beaucoup de talent, il est l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Et je pense que si on parle juste en termes qualitatifs, il y a la place pour aller faire quelque chose. C'est une de celles grosses équipes qui reste, qui a plus grand chose à jouer, voire plus rien à jouer, à part la compétition aux grandes oreilles. Et on peut y croire. Je pense que dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont déjà gagné. Je pense à Kimmich, je pense à Leroy Sané, je pense à Gnabry. Je pense à Goretzka, donc à Alphonso Davies. Donc, je pense qu'il y a quand même une ossature de joueurs qui sont des gagnants, qui savent comment la gagner. Et je parle même pas du coach, Thomas Tuchel, qui l'a déjà gagné avec pas le plus grand des Chelsea. Donc, je pense que la formule, le coach et certains joueurs ou certains leaders de l'équipe l'ont. Ils ont la formule. Et comme ils n'ont que ça à jouer, entre guillemets, vu que c'est mathématiquement pas encore fini en championnat, comme ils n'ont que ça à jouer, ben, ce serait stupide de penser qu'il n'y a pas la place pour eux. Et je pense pas qu'il faudrait les enterrer déjà maintenant.
Moi, je comprends ton point de vue, Carter, mais je pense que même si tu as toutes les formules, des fois, quand ça ne veut pas fonctionner, ça ne veut pas fonctionner. Et si je dis que moi, je vois Arsenal passer, c'est parce qu'Arsenal a beaucoup plus à prouver que le Bayern. Donc, c'est pour ça que je les vois passer ce tour-là.
Ouais, non, je tiens à préciser Leroy Sané. Leroy Sané, il n'a pas gagné avec des champions, puisqu'il était, quand ils ont gagné le Bayern en 2019-2020, c'est l'année où, justement, il doit rejoindre le Bayern l'été, mais il se pète pendant les matchs amicaux. Du coup, il fait une saison à City blanche où il joue pas du tout. Du coup, il part de City quand le Bayern y gagne, et quand il arrive, deux ans plus tard, City gagne. Peut-être que c'est lui qui porte la poisse. Moi, je, n'étant pas du tout un grand fan de Tuchel, je suis pourtant plus d'accord avec Carter. Dans le sens, je pense vraiment que c'est le type d'équipe, un peu comme peut-être le Real 2017-2018, qui en championnat, c'est une catastrophe. C'est tactiquement, on ne voit rien. Mais tu as des joueurs d'une qualité tellement supérieure. Enfin, moi, je ne peux pas croire qu'une équipe avec Harry Kane, Moussiala, avec un Coman qui est de retour, quand tu vois ce qu'ils ont investi, enfin, là, il y a Kim Min-jae, même s'il ne joue plus trop. De Ligt, même si c'est un défenseur que j'aime pas, Kimmich, Pavlovic, là, qui est un jeune qui monte. Je peux pas croire que c'est une équipe qui va faire figuration, surtout face à Arsenal. On a vu qu'Arsenal a eu du mal face à Porto, parce que Ligue des Champions, ça reste une compétition à part. Arsenal est une meilleure équipe cette saison que le Bayern, ça, y a pas photo, mais moi, je pense que vraiment sur une double confrontation à l'expérience, aux qualités individuelles. Je pense que quand je regarde le 11, vraiment chaque joueur individuellement, je pense que voilà, de la plupart des fois, je vais prendre les joueurs du Bayern. Donc moi je pense que Tuchel, avec son ego, c'est vraiment un tacticien. Enfin, moi, je me rappelle du match la saison dernière face à City. Alors certes, ils prennent une fessée 3-0, mais il faut revoir le match. Ils prennent 3-0, mais honnêtement, ils ont un nombre d'occasions. Je ne vais pas dire incalculable, si, calculable, mais beaucoup d'occasions de marquer. Et il manquait justement un 9. Là, c'était peut-être Choupo-Moting à l'époque. Il n'y avait pas de 9 vu que Lewandowski était parti. Donc, je pense que Tuchel est vraiment le type de coach qui est capable de préparer une rencontre tactiquement face à l'Arsenal d'Arteta. Et pour moi, je ne serais vraiment pas étonné qu'il les sorte. Toi, Carter, tu avais quelque chose à rajouter?
Par rapport au match de samedi, comme j'ai énoncé lors de la première prise de parole concernant ce match-là, je voudrais vraiment qu'on aborde le cas, si c'est possible, de Alphonso Davies. Pendant de longues années, on l'a présenté comme une pépite, comme un joueur à fort potentiel, mais force est de constater que depuis son passé, il stagne, et voire même il régresse. Et son match de samedi soir, c'était vraiment criant. Il a pris l'eau, il était mauvais, et il n'a toujours pas de concurrence à son poste, et c'est un peu effrayant pour une équipe de ce standing-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, c'est effrayant. Honnêtement, je vois aucune évolution. Enfin, je vois même plus une régression entre son match. Je me souviens, il était 2020, confinement face au FC Barcelone, ce qu'il a fait à Semedo. Je vois aucune évolution, mais il a des capacités physiques hors normes. Mais voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de latéraux. Enfin, il fait partie des latéraux qui, j'ai envie de dire, même celui du PSG à droite, qui a aussi des qualités physiques. J'ai l'impression qu'ils évoluent pas. Ils évoluent pas. Toi, Muse, Alphonso Davies.
Non, c'est ce qu'on disait là tantôt. C'est ce poste-là, le problème, c'est les latéraux. Ils ont tellement joué offensivement qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune évolution et même une régression. Et c'est un problème uniquement de ce poste-là. Là, par exemple, je ne peux pas te citer un seul latéral qui a progressé. Dis-moi un seul latéral aujourd'hui qui a progressé. Il n'y en a pas. Ils ont tous stagné au même niveau ou même régressé. Et ça me fait penser au cas Marcelo, mais ça remonte un petit peu, où c'était super offensivement, c'était tout aussi bien défensivement, mais au fur et à mesure des années, c'était que bien offensivement et beaucoup moins défensivement.
Peut-être pour les latéraux, il y a peut-être Théo. Je trouve que ça fait partie des seuls qui quand même reste régulier, mais sinon c'est vrai. Bon, il y a Robertson, mais qui est un peu plus âgé et qui se blesse un peu. C'est vrai que sinon, là, je sais, Reece James, qui est censé, pour moi, qui devrait être le meilleur latéral droit du monde, il n'a pas de physique. Il y a peut-être Malo Gusto, qui fait une bonne saison. Là, je suis en train de réfléchir. C'est vrai qu'à Liverpool, tu as l'autre, là, le Bradley, qui est pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ténor, en tout cas. Mais de l'autre côté,
ouais. Si tu m'aimes Patrick, c'est pas mon plus grand ami, mais si je pense que c'est quand même Carvajal. J'ai jamais été très fan de lui. Mais Carvajal, c'est vrai que ça fait comme des années que c'est une référence à son poste. Il y a des hauts et des bas. Mais quand il est bon, il faut le dire, cette année, je pense qu'il est quand même un des seuls latérales, comme Muse l'a dit, un des seuls latérales vraiment qui, on peut dire, qui résiste un peu à la décadence, je ne sais pas si ça se dit en français, la décadence du poste qui est le poste de latéral.
Ouais, cette saison, il a vraiment... Autant la saison dernière, c'était une catastrophe, autant cette saison, il s'est vraiment remis la tête à l'endroit. J'ai eu peur, à un moment, j'ai vraiment cru que tu allais me citer Wan-Bissaka, et là, j'allais me dire, oh non. maintenant, on va parler un petit peu du Borussia Dortmund, qui est quand même le grand vainqueur de ce match. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous fait changer un peu votre perception du Borussia, alors que c'était l'équipe que tout le monde voulait tirer en Ligue des Champions, alors qu'au final, c'est quand même une équipe qui a fini première du groupe de la mort, en allant gagner à Milan, en allant gagner à Newcastle. Là, ils viennent gagner à l'Allianz Arena. Face au PSG, ils font match nul chez eux, en ayant quand même pas mal d'absents. Ils sont en plus dans le chemin le plus facile, hein, parce qu'ils vont rencontrer l'Atlético en quart. Après, ils seront soit à Paris, soit au FC Barcelone. Toi, Muse, est-ce que ta perception du Borussia Dortmund, elle a changé?
Non, ma perception, elle n'a pas changé. Le Borussia Dortmund, c'est toujours le Borussia Dortmund. Mais je pense que dans ce match-là, contre l'Atlético Madrid, ce sera un match très ouvert, deux styles de football complètement différents, et je pense que le style du Borussia Dortmund prendra le dessus sur l'Atlético Madrid, et surtout que l'Atlético Madrid de cette année ne fait pas du tout peur, donc non, je vois quand même le Borussia Dortmund supérieur.
Décidément, aujourd'hui, Muse, on ne sera pas d'accord. Moi, je suis sûr et certain que tactiquement, l'Atlético Madrid ne fera qu'une bouchée de cette équipe-là. C'est une équipe qui a trop de vices, beaucoup trop d'expérience. Et je pense qu'entre les deux coachs, je pense que Pochettino va manger le coach tactiquement de Dortmund. Et il n'y aura pas
Simeone.
photo. Simeone, ouais, pardon, Simeone. Décidément, aujourd'hui, j'ai beaucoup de bêtises.
Les Argentins, hein, tu confonds.
Simeone va manger le coach du Dortmund. J'ai oublié son prénom, c'est
Terzic.
Merzic. Il va le manger. Il va le manger. Et l'expérience entre deux équipes va se faire. Va se voir et ça va être criant.
Eh bien, moi, je suis en désaccord avec vous deux. Comment c'est possible alors que vous n'avez pas le même avis? Parce que déjà, je trouve que Dortmund est pas si différent de l'Atlético. En tout cas, cette saison, c'est une équipe, pour parler avec beaucoup de supporters de Dortmund, c'est pas une équipe qui est très sexy à voir jouer cette saison. C'est une équipe qui est capable vraiment d'attendre, de se poser bas. C'est pas le Borussia Dortmund des années Tuchel ou Klopp ou Gegenpressing, on vient presser avant. C'est une équipe qui est vraiment capable d'attendre. On a Mats Hummels derrière, on fait confiance à Kobel même s'il n'était pas là. Donc je pense, pour moi, c'est vraiment la pire opposition possible pour l'Atlético, parce que l'Atlético, contre l'Inter, s'ils jouent le Real, s'ils jouent City, ils ne seront pas favoris. Ils vont pouvoir utiliser leur vis, attendre bas, faire déjouer l'adversaire. Parce que l'Atlético, c'est vraiment faire déjouer son adversaire. Mais vu que Dortmund est une équipe qui ne va pas tant jouer que ça, je me dis que en fait, là, c'est l'Atlético qui a tout à perdre. Dortmund, c'est une équipe qui va arriver, venez, venez, c'est à vous de gagner, c'est à vous de faire le jeu. Nous, ça ne nous dérange pas. Et en plus, je trouve, c'est en regardant le match contre le Bayern, c'est que le banc du Borussia Dortmund est pas si mal. Parce que là, il y a Haller qui est revenu de blessure. Ils peuvent, donc Marco Reus est maintenant devenu remplaçant. Il y a Adeyemi qui a décidé, ok, c'est bien de faire des TikTok avec ma copine, mais jouer au foot, c'est pas mal. Et là, il a fait vraiment un très, très bon match. J'ai bien aimé aussi encore le match de Julian Brandt. Je trouve qu'ils ont vraiment un effectif plutôt pas mal, un coach qui est plus un coach de coupe, j'ai envie de dire, qu'un coach de championnat. En tout cas, moi, à ce niveau-là, je suis d'accord avec, c'était avec Muse. Moi, je pense vraiment que Dortmund va sortir l'Atlético. Parce que j'imagine que vous n'êtes pas convaincu vu que vous avez vos idées, mais voilà.
Non,
Non,
moi,
moi,
je suis sûr et certain que Dortmund va sortir l'Atlético.
Bah, écoutez, rendez-vous dans une semaine, du coup.
Ouais, une semaine. En plus, le retour, je le rappelle, est à Dortmund. Et voilà, c'est pas rien d'avoir le retour au Signal Iduna Park. Donc, on clôture les championnats européens. On revient sur notre belle Belgique. Et donc, le début des playoffs 1 et des playoffs 2. Donc, les playoffs 3 n'ont pas encore commencé. Ils ont moins de matchs. Ils commencent, je pense, cette semaine, donc la semaine suivante. Première question, vu que on n'en a pas encore parlé dans ce podcast, c'est quoi votre avis sur les playoffs? C'est quelque chose qui divise? Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour mais à moitié. Toi, Muse, t'es quel team?
Non, moi je suis team anti-playoff. Je suis pas du tout fan et je pense que notre championnat irait mieux sans les playoffs. Et surtout avec la division de points, non, je suis encore moins fan.
Et toi, Carter? Team
Mais
playoff ou team?
je suis du même avis que mon ami Muse. Je suis anti-playoff. Je trouve que ça casse le rythme du championnat et ça crée une nouvelle dynamique. Et bon, les dernières saisons, ça a vraiment handicapé l'Union. Je trouve ça a vraiment cassé une certaine dynamique. Et j'ai peur que c'est ce que ça se reproduise encore cette saison. Ça change vraiment en fait le cours du championnat et c'est désagréable.
Donc deux anti-playoffs, pour une fois vous êtes d'accord, moi je sais pas. Honnêtement, je me dis moi je suis un mec, je suis un peu un mec de Netflix, moi je suis un mec de divertissement. Ok, on dit ouais, ça veut dire que c'est pas vraiment la méritocratie, il y a une équipe qui fait tout championnat en tête, on divise par deux. Franchement, moi, je vais vous dire, ça me dérange pas. Bon, moi j'aime l'odeur du sang, moi je me suis régalé l'année passée avec le match de l'Union face à Bruges et la défaite en fin de match. Le but de vous savez qui, dont je ne prononcerai pas le nom, face au Kersegeng. Franchement, moi, je ne suis pas du tout anti-team playoff et la division des points par deux. Je comprends qu'on ne l'aime pas, mais je trouve que c'est ça qui donne un petit peu ce côté excitant parce que si tu commences les playoffs et qu'il y a une équipe qui a 15 points d'avance, bah, ok, on va jouer 10 gros matchs, mais 10 gros matchs qui n'auront pas d'intérêt. Donc, pour le début hein, de cette Champions Playoff, malheureusement, on s'en doutait, mais c'est le cas. On a quatre équipes qui jouent presque rien. parce que ben voilà, que ce soit le cercle de Bruges, le club de Bruges, Antwerp et Genk, ils ne joueront pas le titre. Je pense, même si mathématiquement c'est encore possible, tout le monde sait que ce ne sera pas le cas. Même si bon, il y a un billet, les billets pour la Coupe d'Europe. Et n'oublions pas que ces playoffs, apparemment, avec ces playoffs, c'est mieux de finir 7e, de jouer les playoffs 2 et d'être 7e que d'être qualifié en playoff 1 et finir 6e. Mais bon, ça, c'est ça, par contre, ça, je ne trouve pas ça très, très normal. Donc, voilà, chaque semaine, on va parler de ces playoffs, mais il y a un des trois matchs dont on ne va pas débattre dessus parce qu'il n'aura pas d'intérêt, parce qu'il n'y aura ni Anderlecht ni l'Union, qui sont voilà, les deux équipes qui jouent le titre. Là, pour ce week-end, c'était donc le match entre le club de Bruges et le Cercle, qui s'est fini sur un but partout. Dommage, parce que c'était peut-être le match le plus chouette à regarder. Donc, des buts de Dinky et Skovolsen, qui sont peut-être les deux meilleurs joueurs de chaque équipe. Une mi-temps pour chaque équipe, le Cercle en première, le club en deuxième. Peut-être que le club aurait quand même mérité de gagner. Enfin, au vu de la deuxième mi-temps, et beaucoup d'occasions. Il y a eu un énorme Warlesson, en deuxième mi-temps qui a retardé l'échéance, mais qui a fini par craquer, même s'il avait été aidé par ses poteaux. Un très bon Noussa, un très bon Van Aken. Donc Bruges, un nouveau coach, voilà, avec le licenciement de Ronny Deila avant le début des playoffs. Donc celui-ci, ben, il va jouer surtout la Conference League, parce que justement, Conference League, il y a quelque chose à jouer avec les quarts contre le PAOK, et ils sont du bon côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du côté d'Aston Villa pour les demi-finales. On a vu De Kuyper qui a commencé sur le banc, mais qui est monté parce que Björn Meyer a fait un match pas fou. Petite question, hein, on va pas débattre, mais est-ce que vous pensez que ces deux équipes peuvent avoir un impact dans la course au titre? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher des points, que ce soit à Anderlecht ou l'Union, Muse?
Je pense que quand même, ils ont quand même des points à aller chercher, surtout contre l'Union Anderlecht, vu que c'est pas un secret, c'est des playoffs à deux équipes, il n'y a que l'Union et Anderlecht qui peuvent être champions. Donc ouais, c'est quand même des équipes qui font chier. Et il y a quand même des points à les gratter au niveau de l'Union et Anderlecht, donc je dirais ouais.
Et toi, Carter?
Ouais, ben la même. Hein. Je pense que rien que par leur présence dans les playoffs 1, pardon, il y a des points à les gratter. Et je pense qu'il y aura, enfin, ils donneront aucun match facile aux deux en tête. Donc, je pense qu'ils ont un rôle d'arbitre à jouer. Ce serait intéressant de regarder les matchs, ouais.
Ouais, surtout que le Cercle, c'est vraiment une équipe super, super chouette à regarder, mais on en reparlera en fin d'émission. Donc évidemment, on va pas suivre l'ordre chronologique et on va maintenant parler du match entre l'Union et le KRC Genk. Donc l'Union a été battue 1-0 sur un but d'Aroko Daré. Pas d'Amora du côté de l'Union, qui était revenu donc très tard de sélection. C'était vendredi. En plus, il s'est blessé à la pommette et il est resté sur le banc tout le match. Donc, voilà, le coach Blessin a préféré pas prendre de risques. Première question pour vous, le fait de préserver Amoura dans un match que tu perds au final, bonne idée dans le sens que ben, il y a encore 9 autres matchs, ou pour vous il aurait déjà dû le faire monter? Toi, Carter?
Ben, après coup, c'est facile de dire il aurait dû monter, hein. Pour ce cas précis, j'ai un peu du mal à me positionner parce que je me dis, bon, si le coach t'a sélectionné pour le match qui est sur le banc, c'est qu'il estime qu'il était en capacité de pouvoir jouer. En même temps, s'il n'a pas fait monter, c'est peut-être pour le préserver. Comme tu as dit, il reste encore 9 matchs. C'est une défaite. C'est pas encore la fin du championnat. C'est pas encore la fin de la course. Donc, seul le temps nous dira s'il a eu raison de le préserver ou pas.
Toi, Muse, Amoura qui ne monte pas, pour toi, c'était la meilleure idée pour pas le perdre peut-être définitivement?
Je dirais pas que c'était la meilleure idée, mais je pense que dans l'idée du coach, il y avait de quoi revenir au score, et donc le coach a décidé de ne pas le faire entrer et plutôt le préserver, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Je pense qu'il y avait quelque chose à aller chercher, encore plus avec Amoura, même malgré sa blessure à la pommette.
Ouais. En plus de ça, il y avait deux autres absents importants. Il y avait Machida, suspendu, hein, qui avait pris une carte rouge lors du dernier match. McAllister, toujours blessé. Donc l'Union n'avait plus perdu, hein, il faut le savoir, depuis le 16 septembre. Aujourd'hui, on est le 2 avril. Le match avait lieu le 1er. Ça veut dire plus de 6 mois. Et c'était d'ailleurs face à Genk. Genk qui vivait une année 2024, on va dire, assez compliquée, mais là, le temps d'un match est redevenu le KRC Genk qu'on a connu la saison dernière, avec une adaptation en passant avec une défense à 3 pour justement affronter les deux attaquants de l'Union. Et il a fallu du temps pour que Blessing s'adapte et sorte justement en attaquant. Donc c'était un vrai problème posé par Vranken, et peut-être d'ailleurs que moi, si j'étais les coachs adverses, je noterais que c'est quelque chose qui embête pas mal l'Union. Il y a eu aussi un fait de jeu important, le carton rouge de Burgess en fin de match sur une action, j'ai envie de dire, un petit peu stupide, où il lance le ballon à Rocco Daré. D'ailleurs, il pourrait prendre normalement 3 matchs de suspension, dont un avec sursis. Donc c'est vraiment stupide, et ça me fait d'ailleurs penser, la bonne mémoire que j'ai, à Genk l'année dernière face à l'Antwerp, où Trésor et Ouattara prennent un rouge en fin de match, et donc ils ratent le match suivant contre l'Union, ils prennent 3-0. Et si on regarde par combien de points ils perdent le titre, tu te dis que c'était vraiment assez stupide. Première question, est-ce que vous avez été surpris par cette défaite des unionistes face au KRC Genk dès la première journée des playoffs? Toi, Muse, surpris ou pas tant que ça?
Moi, je suis assez surpris parce que je me suis dit que l'Union allait apprendre de ses erreurs des deux dernières saisons. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. J'ai l'impression de revoir l'Union de l'année passée qui commence déjà à choc lors des playoffs. Alors que normalement, dans la logique des choses, quand tu choques deux fois d'affilée, lors de la troisième, tu dis non, c'est plus possible. On y va, les gars. Et voilà, on y est. C'est la même Union que l'année passée. Et franchement, pour moi, c'est très inquiétant.
Toi, Carter, t'es aussi inquiet pour l'Union ?
L'idée, c'est pas de tomber dans l'alarmisme, mais en même temps, je rejoins ce que Muse dit. T'as vraiment l'impression sur ce match, en tout cas, que l'Union n'a pas appris de ces deux derniers échecs, et que en regardant le match, je me suis dit, mais est-ce que la lumière des playoffs est pas un peu trop forte pour l'Union ? T'as l'impression que les joueurs perdent les moyens, et rien que pour parler sur le quatuor défensif, et dans le quatuor, j'inclus le gardien. Maurice, aucun n'a été bon. Sadiki était le moins mauvais des quatre, mais aucun n'a été bon. Burgess prend un carton rouge stupide. Sykes, ça a été vraiment affreux. Maurice, le but, on peut le dire, c'est pour sa pomme. C'est inquiétant, comme il a dit, c'est inquiétant. On ne va pas tomber dans l'alarmisme. Il reste 9 matchs, donc je pense qu'il y a encore le temps de se rattraper, de faire mieux. Mais en même temps, tu as l'impression que le cycle des erreurs qu'ils ont commises il y a 2 saisons, l'année dernière, ça se répète en fait. Donc, assez inquiétant, oui, en effet.
Ouais, c'était mais dans le quatuor défensif, c'était plutôt Van Nout qui avait été replacé en défense centrale. Mais c'est vrai que Sadiki, c'est un match où il a fait son âge, j'ai envie de dire. Après, moi, je suis moins, on va entre guillemets, alarmiste que vous, dans le sens où c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis le 16 septembre. Alors oui, ils ont perdu, mais à un moment, je pense que ça devait arriver, cette défaite, ils devaient perdre. Ça arrive contre Genk, donc une équipe qui n'est pas un concurrent direct. Dès la première journée, moi, je me dis au contraire, parce qu'à un moment, il ne fallait pas perdre pour « Waouh, on remet la pression, enfin, il faut se remettre la pression, les gars. Ok, on a perdu, on a toujours notre sang entre les mains parce que l'Union reste premier avec une différence de 0,5 points plus l'avantage d'avoir fini premier lors de la phase classique. Donc, moi, je me dis, waouh, tranquille, calme. Voilà, une défaite, ça arrive. Je ne pense pas qu'Anderlecht va être invaincu lors de ces playoffs. Je ne pense pas que l'Union allait être invaincue. Ils ont perdu. Ça arrive. Il n'y avait pas leurs meilleurs joueurs. Ils avaient des absences en défense. Ils ont perdu 1-0. Il y a eu, c'est vrai, je trouve, quelques réactions un petit peu d'énervement des joueurs un peu très tôt. Et même le coach l'a dit que ça l'avait énervé. Mais pour moi, voilà, c'est une défaite qui devait arriver. Elle est arrivée. Maintenant, top. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est qu'au final, il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu ces fameux traumatismes dans la saison qui sont partis, et plein qui sont arrivés. Je veux dire, Sadiki, il n'était pas là la saison dernière. McAllister, il n'était pas là. Amoura, il n'était pas là. Puertas était là, mais il était dans un rôle secondaire. Donc, pour moi, honnêtement, je ne suis pas inquiet. Bon, on verra la semaine prochaine, mais pour le moment, je ne suis pas inquiet. Et je pense que il n'y a pas de quoi s'inquiéter encore. Toi, Muse.
En fait, moi, cette défaite, pourquoi je te dis qu'elle m'inquiète, c'est parce qu'elle peut être à double tranchant. Soit cette défaite, elle te sert de tremplin, tu te dis on a perdu les gars, on va de l'avant, prochain match on gagne. Soit c'est on a perdu et on repense à la saison passée et au traumatisme de la saison passée et tu repères.
Non, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, justement, il y a tellement de choses qui ont changé. Je veux dire, c'est pas le même coach, donc lui n'a pas vécu ce traumatisme. Certes, il y a des joueurs qui sont encore là, mais il y a sur le 11, est-ce qu'il y a Castromontes, il n'était pas là. McAllister, il n'était pas là. Pour moi, je vois pas de raison. Enfin, pour moi, presque, s'ils rééchoueraient encore une fois, ce serait pas parce qu'ils ont échoué l'année passée, ce serait juste un nouveau groupe, comme si c'était une nouvelle équipe qui échouait. Mais bon. On verra et on va maintenant passer donc au dernier match des playoffs 1 entre Anderlecht et l'Antwerp, hein, le match du vendredi. Anderlecht vainqueur à la maison face à l'Antwerp, 1-0 grâce au premier but de Kiki de Bruxelles, Kylian Sardella, donc premier but en Pro League. Un rouge stupide qui a fait beaucoup jaser, là aussi un rouge donc de Wijndal. On va pas débattre ici de ce qui s'est passé. Car c'est pas le but, mais c'est un rouge qui a influencé les matchs des Mauves, alors que l'Antwerp faisait plutôt, je trouve, une bonne première mi-temps. Pas mal de retours hein, du côté d'Anderlecht, hein, parce qu'il y a eu pas mal de blessés sur les dernières semaines, les derniers mois, que ce soit Thorgan Hazard, Vertonghen, Sardella. Là, on voit même un joueur comme Amouzou qui est de retour, et c'est ma première question, justement. Francis, hein, Amouzou, avec son profil, je trouve, atypique dans l'effectif d'Anderlecht. C'est-à-dire c'est un ailier très moderne, quoi, un ailier, genre, on pourrait le comparer à un ancien joueur d'Anderlecht, Doku, pas du tout en termes de niveau, mais en termes de profil. Est-ce que c'est un joueur qui, pour vous, peut être un joueur clé d'Anderlecht dans ses playoffs, Carter, toi, t'en penses quoi?
Ben, l'idée, c'est de se dire qu'une addition, ça fait toujours du bien. C'est une option en plus et surtout différente de ce que a le Sporting dans son noyau. Et je pense que ça peut être qu'un plus. Ça peut être qu'un plus. Il apporte des solutions différentes dans la percussion. Un peu plus de déchets que ce qui. Enfin, un joueur qui est habitué à avoir un peu plus de déchets que les joueurs qu'ils ont devant. Mais c'est une solution différente et ça peut être qu'un plus. Ça peut être qu'un plus.
Et toi, Amouzou, tu penses
Ouais,
qu'il peut
moi
jouer un.
je rejoins Carter totalement là-dessus et je pense que même ça pourrait être un élément déclencheur en plus qui pourrait débloquer des matchs en fin de rencontre. Donc non, c'est une bonne chose qu'il soit revenu pour Anderlecht.
Donc vraiment une victoire très importante hein, pour Anderlecht, pour commencer ses playoffs et bah, déjà mettre la pression sur l'Union. Par contre, il bah, faut le dire, et avec Anderlecht, on l'a vu souvent cette saison, c'est pas forcément très convaincant dans le jeu. Donc là, on est sur 8 matchs sans défaite hein, face à l'Antwerp pour Anderlecht. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'à cette période de la saison, est-ce que vous allez... on va dire apporter de l'importance à la façon de gagner. Si Anderlecht gagne tous ses matchs 1-0, est-ce qu'il y a quelque chose à redire parce que c'est Anderlecht ou... Mais voilà, on est à une période de la saison où, bah, entre guillemets, on s'en fout, bah, il faut juste gagner, toi, Carter.
Mais comme tu viens de le dire, le plus important, c'est les résultats. Les playoffs, le plus important, c'est les 3 points. Je pense que Kiki de Nerpede, Sardella, l'a dit après dans son interview d'après-match, jusqu'au carton rouge, ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais et ils le savaient qu'ils n'ont pas été bons. Et c'est seulement à 10 contre 11 qu'ils ont su un peu prendre l'ascendant et se créer un peu plus d'occasions. Mais je pense que même dans le subconscient des joueurs, ils le savent, enfin, dans le subconscient, dans le conscient des joueurs, ils le savent qu'ils ne sont pas forcément convaincants dans le jeu. Et le plus important, c'est de prendre les 3 points. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, qui savent gagner des matchs, qui ont déjà gagné à l'étranger. Donc, ben, ça joue en leur faveur. Ça joue en leur faveur. Ils savent comment gagner des matchs. Et c'est plus important, je pense, dans les playoffs 1.
Et avec cette victoire, j'ai envie de poser une question à toi, Muse. Est-ce que Anderlecht devient maintenant le favori pour le titre ou pas encore, ça reste l'Union?
Le favori, non. L'Union reste quand même devant. Mais ça devient de plus en plus chaud pour les fesses de l'Union. Je dis ça parce que Anderlecht, cette saison et depuis la saison passée avec leur coach Brian Riemer, c'est pas la façon de jouer qui compte, mais plutôt le résultat. Là, on a un Anderlecht qui peut mal jouer, qui peut très très mal jouer, mais si à la fin tu gagnes 1-0 ou 2-0, c'est ce qui compte. Et c'est ça qui fait peur avec cet Anderlecht-là de cette saison. C'est uniquement le résultat qui importe, contrairement à l'Union qui joue bien, enfin beaucoup mieux que Anderlecht, mais on a un Anderlecht qui est beaucoup plus sérieux dans ce registre-là.
Et toi, Carter, Anderlecht, ce qui est avec cette victoire et la défaite de l'Union, est-ce que c'est eux maintenant les favoris pour le titre ou ça reste quand même malgré tout l'Union pour tout ce qu'ils ont montré dans la phase classique?
Non, je pense que l'Union a fini la phase classique avec la casquette de favori pour le titre et sont entrés en lice dans ces playoffs avec la casquette de favori. Je ne pense pas que ce soit ni la défaite de l'Union ni la victoire de Anderlecht qui change le cours des choses pour le moment en tout cas. Je dirais que l'Union reste l'ultime favori pour le moment.
Moi, je ne vais pas cacher que... Enfin, en fait, comme la fin de saison se déroulait et qu'on voyait comment Anderlecht est en train de grappiller un point par-ci, un point par-là, je le vois arriver comme une... Genre comme une évidence de l'Anderlecht qui finit champion. Moi, j'ai envie de dire... c'est vrai que moi, quand je vois l'effectif d'Anderlecht, comment il est complet, quand il y a des joueurs d'expérience... Moi, je les mets pour moi déjà favoris, mais bon, on verra. Et donc, petit retour sur le classement avant de terminer sur ce sujet-là. Donc le top 6, donc Union premier avec 35 points. Anderlecht qui suit avec 35 points aussi, mais 0,5 points en moins, vu que quand on a arrondi vers le haut. Club 27, Genk 27, Antwerp 26 et Cercle 25. Le week-end prochain, on a Union Cercle. Club de Bruges, Anderlecht, match qui va être très, très, très intéressant. Et Antwerp, Genk. Donc maintenant, il est temps de passer au dernier sujet et aux questions-réponses des abonnés. Donc on a pioché 3 questions parmi donc, les réponses au tweet sur Let Me Talk Off. Et je vais commencer par la question de Erwan. Et donc, quelle est votre destination idéale pour Amadou Onana, et je vais commencer par Musamel, je te laisse répondre.
Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, c'est pour Amadou Onana, on le voit tous au Bayern, enfin je le vois au Bayern, mais je suis sûr que vous aussi, et d'ailleurs il y avait des rumeurs qui disaient que le Bayern suivait les performances d'Amadou Onana, donc non, Amadou Onana en Allemagne, je le vois bien, c'est là où il a débuté, c'est un championnat qui lui va bien, qui connaît ce championnat, donc pour moi, ouais, la destination idéale pour Amadou Onana, et sur le plan sportif, et sur le plan extra-sportif, c'est l'Allemagne, donc le Bayern Munich.
Carter, même avis ?
Même avis, oui et non. Destination idéale, le Bayern, oui, mais ce n'est pas la seule. Moi, j'ai 3 clubs en tête. Je ne sais pas si c'est de la triche ou pas, vu de la réponse, parce que à mon avis, c'est la destination idéale. Mais au Bayern, comme Muse l'a dit, ben, au niveau de la situation sportive, avec des milieux qui ne sont pas toujours, enfin, qui sont pas toujours présents, Amadou Onana, ben, c'est une solution idéale. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou des idées reçues, je le verrais aussi au Barça. C'est un profil qui plairait beaucoup à Barcelone et aux supporters de Barcelone parce que contrairement à ce que la majorité des gens pensent, Amadou n'est pas qu'un joueur agressif et physique, c'est un joueur avec des qualités techniques plus que correctes, avec une vision de jeu plus que correcte. Et je pense que au vu de ses qualités, c'est un profil qui remplirait un vide à Barcelone. Et oui, parce que je suis quand même un clubiste, je le verrai aussi bien Manchester United, au vu des futurs départs de Amrabat, certainement aussi de Eriksen et Casemiro. Je pense qu'il y a vraiment une place à prendre dans un gros club de championnat qu'il connaît déjà très bien, avec ces qualités dont j'ai déjà cité précédemment. Donc, pour répondre à la question, le club idéal pour lui, ce serait le Bayern, le Barça et Manchester United. Maintenant, à lui de faire le choix.
Ah ouais, ça fait beaucoup de clubs là. Moi, donc la destination idéale, le Bayern, oui, pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est pas un sou. Enfin, le Bayern, on parle d'une équipe qui est censée quand même jouer avec des champions. Quand j'ai joué avec des champions, c'est jouer le titre. Est-ce que c'est pas un gros saut de passer d'Everton ? Moi, perso, si j'étais lui, je resterais en première ligue. Et le club où je le verrais bien évoluer, grandir, c'est un autre club de première ligue. Moi, je l'aurais bien vu. C'est à Newcastle, honnêtement. Il y avait eu des rumeurs en début de saison avec Tonali qui a quand même parié sur 753 matchs cette saison et bon, je sais pas quand il va revenir jouer au foot. Moi, Newcastle, je trouve que dans le football proposé par Eddie Howe, avec un Bruno Guimaraes, avec un Joel Linton, et je trouve justement il manque peut-être ce troisième milieu. Il y a certes Longstaff où il y a aussi un petit Maillet, je pense, je suis pas sûr qu'il avait joué en Ligue des Champions quand il y avait plus d'autres joueurs. Moi, Newcastle, ce serait ça, ma destination idéale, plus Newcastle. Donc, on va passer à la deuxième question, et je pense qu'elle est pour moi surtout. Donc, comment expliquez-vous la sans surprise du Cercle Bruges? Et peut-être faire une mention spéciale à Hugo Siquet. Donc, moi, j'ai eu la chance de regarder pas mal le Cercle de Bruges. Et comment on peut expliquer cette saison surprise? Ah, donc, le tweet, c'est par Roi Courtois 26, donc un fan de Thibaut Courtois apparemment. Moi, j'ai envie de dire le travail, hein, déjà, c'est un coach, un très, 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 très bon coach. Pour moi, c'est super important qu'un coach, en fait, en regardant son équipe, on sache que c'est lui. Il y a trop peu de coachs, je pense, dans les top équipes chez qui on arrive vraiment à avoir une patte. Mais là, on la voit avec sa défense à 3, c'est ses pistons qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours. C'est une équipe Bundesliga, en fait, qui est ici, en Pro League, et aussi les scouts. Les joueurs qui vont dénicher, enfin Kevin Denki qui en France était un joueur, tu vas parler aux Français, ouais on l'a vu jouer ici, je pense que c'était en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais il a marqué personne alors qu'ici il explose tout. Ils arrivent vraiment à dénicher les bons joueurs, et le partenariat avec Monaco fonctionne enfin correctement. Ça n'a pas été toujours le cas, et Hugo Siquet, c'est un joueur qui je n'explique pas comment ça n'a pas pu marcher en Bundesliga quand on voit son profil. Au Cercle, il revit. Et je pense que j'ai hâte de voir vraiment la suite de sa carrière, parce que c'est un joueur, au vu de la pénurie de latéraux qu'on a en Belgique, qui pour moi aura un rôle à jouer très, très, très vite. Et maintenant, donc, on va passer à la dernière question de Souls Junior 7. Votre avis sur la scène hier lors du classique avec la sortie de Mbappé à la 64e minute et la gestion du cas de Kylian Mbappé de la part de Lucho. Toi, Carter, qu'est-ce que tu en penses de la situation au Paris Saint-Germain?
De l'extérieur, on sent clairement une cassure entre Enrique et Mbappé. Je pense qu'il essaie de sauver un peu les apparences, mais c'est pas une fois que ça arrive. Il me semble que c'est déjà arrivé lors du match contre Monaco où on se retrouve un peu après en tribune. Et après, Enrique qui dit en conférence de presse qu'il va s'habituer à jouer sans lui. Il le sort hier lors du match du classique. Je pense qu'on sent clairement une cassure entre le joueur et le coach, et que la fin, la sortie, elle est inévitable. Hein, elle est inévitable, ils ne le disent pas, mais c'est vraiment la fin de Mbappé au PSG. C'est juste triste que ça arrive de cette manière un petit peu.
Et toi, Muse, t'en penses quoi?
Ouais, Carter a plus ou moins bien résumé ça, et je pense que Luis Enrique veut montrer qui est le patron, qui est l'entraîneur. Donc il fait des choix forts, il les assume, que ce soit dans la presse ou sur le terrain. Et moi, je trouve ça aussi dommage que le comportement d'Mbappé soit si immature. Quand je dis immature, je parle des réseaux sociaux, la photo qu'il a publiée avec un air dégoûté alors que son équipe a gagné 0-2 à 10 contre 11. Donc, les deux ont leur part de tort, mais je suis plus dégoûté du comportement de Kylian Mbappé, moi.
Ouais, je suis dans la même ligne que toi. Enfin, on parle de quelqu'un qui est né en 98, donc qui va fêter ses 26 ans cette année, qui fait des pics sur Instagram. J'avais déjà vu l'année passée avec le pivot gang. Moi, j'adore Luis Enrique, dans le sens où c'est un coach que si tu lui laisses les mains libres, il va faire ce qu'il veut et il va pas se laisser marcher dessus. Là, je pense qu'on lui a enlevé un poids avec la non-prolongation de Kylian Mbappé, et en fait il traite Mbappé comme tous les autres joueurs, c'est-à-dire que je peux te sortir pour te faire souffler parce que t'es pas bon. Et ça, Mbappé, il est là au PSG depuis 2017, donc ça fait 7 ans, il l'a jamais vécu avec aucun coach, à part peut-être avec Thomas Tuchel. Bon, évidemment, je pense que là, il y a un peu d'ego qui parle aussi du côté de Luis Enrique. Il veut montrer qu'il est le patron, mais c'est moche. Après, je pense qu'ils pourront faire... tous les deux, ils vont mettre c'est quoi, c'est de l'eau dans leur vin, c'est ça qu'on dit, l'expression, pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent s'entendre et s'aider mutuellement à atteindre leur objectif commun. Mais bon, c'est triste qu'un joueur qui va quand même avoir 26 ans dans quelques mois agisse comme un joueur de 18, 19 ans. Donc sur ce, on arrive à la fin de cet épisode, un chouette épisode avec le retour des clubs. On sera de retour la semaine prochaine, et en fait chaque week-end on aura des grands matchs grâce aux playoffs, même si des gens n'aiment pas ce concept ici. Donc merci à vous, merci Muse, merci Carter.
Merci à toi Patrick, merci à Carter, j'ai beaucoup aimé et j'ai pris beaucoup de plaisir pour cet épisode.
Ouais, encore merci aussi à vous les gars, toujours un plaisir d'être présent ici chez les Team Talk, et la semaine prochaine peut-être.
peut-être hein, la semaine prochaine. Hein, donc bah, maintenant, il est temps de se laisser. Peut-être que l'épisode sortira mardi, peut-être qu'il sortira mercredi, on ne sait pas, vous verrez bien. On verra là, si la personne à la prod est assez rapide. Quand je parle de cette personne, je parle de moi. Donc sur ce, ciao.
Ciao, ciao.